Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux. Alors nous allons évoquer aujourd'hui le livre d'entretien que j'ai coécrit avec Dominique Ducassou, bien connu à Bordeaux et dans la région pour ses activités médicales, universitaires, politiques, culturelles et sportives, qui est en fond un personnage rare dans la galaxie bordelaise par son éclectisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais situer le contexte de ce livre. Il s'inscrit dans une collection entamée il y a 3 ans au dossier d'Aquitaine et intitulée « Ma vie, mon œuvre ». C'est le 4e ouvrage de la série après ceux consacrés au socialiste Jacques Respeau, au juppéiste Jean-Louis David et au communiste Vincent Morin, tous les 3 actuels ou anciens élus municipaux et métropolitains. Dominique Ducassou s'inscrit dans cette continuité aux différences près qu'il n'est pas identifié comme les autres à un quartier particulier, et qu'il est aussi ancien élu régional. Mais l'ambition est la même, raconter l'histoire contemporaine de Bordeaux à travers la vie et l'expérience d'une personne ayant exercé des responsabilités électives, mais ayant aussi accompli un métier. Des acteurs de la vie locale qui ont côtoyé 2 fortes personnalités d'envergure nationale, Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. Il n'y avait pas eu jusqu'alors d'ouvrage racontant le parcours de ces seconds rôles de la vie publique, mais comme au cinéma, les seconds rôles sont souvent aussi intéressants que les premiers. Ils disposent d'une forte influence puisque ce sont eux qui sont chargés de mettre en œuvre la politique décidée par leurs supérieurs ou parfois de l'inspirer. Ce sont donc des observateurs qualifiés pour évoquer l'histoire contemporaine bordelaise. Tout récemment, il y a eu 2 autres livres d'entretien avec des hommes politiques locaux, Noël Mamère et Michel Sainte-Marie. Et nous nous réjouissons au dossier d'Aquitaine d'avoir ouvert la brèche, même si l'esprit de ces 2 livres n'est pas le même, parce qu'on ne peut pas parler, dans leur cas, de second rôle. Mais revenons donc à Dominique Ducassou. Vous êtes né le 13 mai 1943 à Bayonne. Quel enfant avez-vous été ?
Quel enfant j'ai été ?
Oui.
Oh ! Comme les autres, avec un degré de turbulence acceptable, accepté, et avec quelques originalités. Mais quelques années passées dans cette ville de Bayonne, entre Nivet et Adour, le petit Bayonne, qui a marqué pratiquement toute ma carrière, parce que j'y ai connu la vie d'un quartier, la vie de quartier Saint-André, croisée de Saint-André avec son patronage, avec ses activités sportives et musicales. Et grâce à ce patronage, j'ai été initié à la musique. Donc ça a été un élément important au moment où, arrivé au conservatoire de Bordeaux, de Bayonne, conservatoire Côte-Basque de Bayonne, un professeur de trompette, Jean Cibrat, récemment élu avec un premier prix de conservatoire national supérieur de Paris. J'ai été son premier élève et c'est devenu un excellent ami. Donc tout était là pour, dans une ville comme Bayonne, avec ses moments festifs et ses moments studieux, tout était là pour que je sois heureux. Et ça pouvait compenser quelques moments moins agréables d'une vie familiale perturbée.
Justement, vous parlez beaucoup de votre grand-mère qui a eu une grosse influence sur vous.
Oui. Oui, oui, ma grand-mère est décédée en 1952. C'est beaucoup occupé de moi lorsque j'étais jeune. Elle était très, très sévère. Et pour moi, c'était une dame âgée. Elle est morte, elle avait 61 ans. Je l'ai toujours connue de noir vêtu. C'était cette période-là, avec une autorité. À l'époque, on respectait nos aînés. Et donc, elle était tout à fait respectable. Et j'ai partagé avec elle de très grands moments, jusqu'au moment, je répète, de son décès, où j'avais même pas 10 ans. Donc après, il y a eu tout le reste. Donc la première partie, jusqu'à 10 ans, j'étais avec elle, avec mon frère et ma sœur, mais qui n'étaient pas beaucoup plus âgés, mais un petit peu plus âgés que moi, qui sont aujourd'hui l'un et l'autre décédés. Et donc, après, eh bien, c'était là où je pouvais être livré à moi-même et où j'ai découvert, en revenant habiter à Bayonne après un passage à Anglette, rue Jacques Lafitte, en face du musée Bonnat, en face du Muséum d'histoire naturelle. J'ai comme ça été bercé pendant une décennie par des animaux empaillés, car le musée était au deuxième étage d'une école communale. Et je dois avouer que j'avais une piètre idée de ce que pouvait être un musée, excusez-moi, monsieur le maire, un musée de ce type qui, ça a beaucoup changé quand je vois les travaux qui sont faits pour le musée d'histoire naturelle et l'environnement et tout ça. Vraiment, ça a beaucoup changé, heureusement. Heureusement. D'accord. Enfin, voilà.
Alors, c'est aussi cet enfant, c'est aussi la découverte de la musique et de la trompette en particulier.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui.
Racontez comment ça s'est passé un petit peu.
Oh, cette tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Je vous dis, j'ai découvert une harmonie qui était dans le patronage. J'ai eu envie de jouer comme à Bayonne. C'est plutôt les cuivres, n'est-ce pas, hein, que le violon ou le piano. C'est plus facilement transportable. Et donc, ça a été d'abord le clairon qui m'a fait connaître la garde républicaine, ou le premier concours que j'ai passé à Paris avec la garde républicaine, qui m'a donné l'idée d'aller au-delà du clairon et de faire de la trompette. Moi, ma grande vocation à l'époque, c'était de rentrer à la garde républicaine. Vous pensez, c'était une grande ambition. Et donc, j'ai très, très, très attentif aux recommandations qui m'étaient faites par ces musiciens de la garde républicaine. Et donc, en revenant, j'ai dit à ma mère, très attentive, que j'allais faire de la trompette, bien sûr, au patronage, mais aussi à l'école de musique, au conservatoire. Ce que j'ai fait, et alors là je l'ai fait très sérieusement, parce qu'avec un jeune professeur issu du conservatoire de Paris, il m'a fait connaître Delmotte, il m'a fait connaître plus tard Maurice André. Donc j'étais très prédisposé pour en faire une carrière. Bon, garde républicaine, pourquoi pas, mais en tout cas, préparer le Conservatoire national supérieur de Paris, telle était mon ambition, tel était mon objectif, ainsi que celui de Jean Cibras, de mes parents, de ma mère, elle ne disait rien. Elle travaillait beaucoup, car il y avait une nécessité familiale. Et donc, tout allait bien. Pendant, je faisais les fêtes de Bayonne, j'étais assez apprécié par les voisins, un peu moins. Mais bon, voilà. Heureusement, j'ai eu le baccalauréat en section mathématiques élémentaires, mathélem. Et là, ma mère s'est tenue à ce que la trompette ne soit pas un avenir, en tout cas professionnel.
Alors, on va en parler de ça, parce que c'est justement votre entrée à Santé Navale. Hein. Alors, comment ça s'est passé, cette entrée à Santé Navale? C'était pas vraiment votre vocation au départ.
Hein. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je n'avais aucune vocation militaire. Je connaissais les militaires par les parachutistes qui étaient à Bayonne, qui étaient des fortes têtes. C'est les périodes de l'Algérie, avec l'OAS qui était très présente, et des parachutistes avec Thomason et de Cuir, enfin, un certain nombre de personnalités qui perturbaient la vie bayonnaise, et les parachutistes qui altéraient beaucoup la dynamique des fêtes. Quoi. C'est vraiment, donc j'avais pas une bonne opinion des militaires. Mais j'avais le bonheur d'avoir un beau-frère qui était navalais, qui était chirurgien de la marine, et qui était à Rochefort. Qui était chirurgien à Rochefort, qui, comme vous le savez, est un hôpital maritime, était un hôpital maritime, il a disparu, c'est dommage, mais un bel hôpital maritime. Il y en avait trois, il y en avait Brest, Rochefort et Toulon. Et il a suggéré à ma mère, qui était un petit peu indécise quant à mon avenir, ben, que je prépare Santé Navale. Il m'a dit, là, cadre militaire, il travaillera, et puis en plus, s'il prépare le concours d'entrée à l'école de santé navale à Rochefort, je m'occuperai de lui. C'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rochefort. Moi, j'ai redécouvert récemment, grâce à nos amis de l'Académie, j'ai récemment redécouvert Rochefort, ce qui a bien changé. Moi, j'y étais avant les demoiselles de Rochefort. À part les moustiques et Pierre Loti, c'était un peu compliqué. Hein,
le paludisme aussi, vous disiez qu'il y
avait... Ah oui, mais au début du XXe siècle, les marins qui étaient en affectation à la palisse, enfin, recevaient la prime coloniale. Ils recevaient la prime coloniale parce qu'il y avait beaucoup de paludisme. Je n'ai jamais vu des moustiques aussi gros. C'était impressionnant. Le taux d'humidité extrêmement élevé. Enfin, Il paraît que c'est devenu une très belle ville, avec la corderie royale et autres. Mais ceci étant dit, moi, j'y ai vécu. Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire autrement que travailler. Donc, j'étais dans un cadre. Donc, j'avais du travail à rattraper. Je l'ai fait dans les calmes et la sérénité. Je l'ai fait aussi avec ma trompette que j'avais amenée avec moi, qui berçait les voisins. Et j'allais de temps en temps faire un petit peu dans un club de jazz qui n'était pas très loin de l'hôpital maritime, aller faire les quelques soirées pour me détendre, j'en avais besoin. Et voilà, et cette année s'est très bien passée. Alors vous savez qu'il y avait deux écoles. Il y avait Bordeaux pour la marine et l'outre-mer, et il y avait Lyon pour l'armée de terre et pour quelques-uns l'aviation. Les premiers, et c'était un concours unique de préparation aux écoles de santé des armées. Les premiers prenaient ce qu'ils avaient et les derniers prenaient ce qui restait. Donc j'avais beaucoup travaillé parce que je ne voulais surtout pas quitter l'Aquitaine. Moi, j'étais bâillonné avant tout, je ne connaissais pas Bordeaux. Bordeaux était près de Bayonne et donc par conséquent, je ne me voyais pas à Lyon. Donc j'ai encore plus travaillé. C'est une grande motivation. Ça peut expliquer d'autres choses par la suite. Et donc, j'ai été reçu au concours, bien placé, ce qui m'a permis de choisir, et j'ai choisi Bordeaux.
Voilà, alors là, c'est un passage très intéressant dans les livres. Vous racontez un peu les coulisses de santé navale, en quelque sorte, et en particulier les brimades.
Ah
les,
oui.
Les brimades et les fœtus. Alors, expliquez un peu ce que ce, sont, ce que sont les brimades et les fœtus.
Ah oui, oui, c'est ceux qui connaissent l'école dans cette assistance, certains doivent la connaître. C'est intéressant, vous arrivez là, vous ne savez pas qui est officier, qui est élève, vous n'avez que des gradés d'ailleurs, et vous arrivez avec votre valise, on fait un peu le... Et on vous dit, vous êtes un fœtus. Un fœtus.
T'as bisu,
là, je savais
en fait.
Ce que c'était un fœtus.
T'as bisu, en fait.
Un fœtus. Un fœtus, parce que pendant un mois, on va vous faire renaître pour la reconnaissance, qui sera un mois après. Et pendant ce mois-là, vous êtes un fœtus, voilà. C'est pas des... Et bien sûr qu'il y a des brimades. Ça, c'est des brimades très sérieuses. D'ailleurs, dans le temps de ces brimades, vous avez vous apprenez à connaître les gens. Certaines qu'on ne voyait qu'au moment des brimades et qu'on ne voyait plus le reste de l'année. Des introvertis qui s'exprimaient à travers la personnalité des jeunes fœtus qui n'avaient qu'une chose à faire, se taire et accepter. Donc voilà. Mais ça avait un gros avantage. Ça fédérait une promotion, c'était extraordinaire. Donc j'ai de très bons souvenirs de ces brimades, d'autant plus que, ayant été repéré comme musicien, comme je m'étais exprimé à Rochefort, j'ai de suite été appelé par l'orchestre de Santé Laval, qui m'a soustrait de quelques brimades. Mais j'ai eu, d'ailleurs, il y a des photos qui en attestent, j'ai eu le crâne rasé comme les autres. Et pendant les brimades, on préparait l'entrée à l'Alhambra, l'ancienne salle de spectacle de l'Alhambra, qui a été démolie par la suite. On préparait la rentrée avec Francis Taillot, qui était le doyen, la rentrée de la fac de médecine et de pharmacie. Voilà, donc la trompette était là, j'ai joué, j'ai œuvré et je me suis amusé.
Et vous avez fait le mur?
Ah oui, oui. Ah ben, tous les navalais faisaient le mur. Et tous les navalais, il y avait même un médecin général que moi, je n'ai pas connu, mais qui était un plus ancien, qui se régalait, quand il avait des invités, de dire, je vais éteindre les lumières, vous allez voir, vous allez avoir du cinéma en temps réel, vous allez voir comment les navalais sont braves. Alors effectivement, pour faire le mur, c'était pas un mur, c'était des grilles. Des grilles avaient des pointes au-dessus. Alors il y en avait un qui poussait, l'autre qui tirait. On est arrivé en essayant d'éviter les aspérités, mais on était bien organisé. On mettait notre manteau sur les pointes. Ça se passait bien et on était surveillés par le médecin général qui nous voyait. Alors, voyant qu'il y avait quand même un certain degré de dangerosité, quelques astucieux de l'école avaient organisé place d'Ormois, au rez-de-chaussée. Et il y avait des grilles, bien sûr. On pouvait pas. Alors, il avait descellé un barreau. Et il avait mis un ressort au bout du barreau, ce qui fait que peu de personnes ne le savaient. Moi, je le savais, comme j'étais musicien, on me l'avait dit, donc j'étais dans les privilégiés. Il y avait quelques privilégiés, donc on ne faisait plus le mur, ni la grille, ni rien du tout. On enlevait le barreau, c'est pas très haut, le dénivelé à la place d'Ormois, et on allait tranquillement. Tout le monde le savait, après, tout le monde le savait. Bon, voilà.
Alors, on apprend aussi dans ce chapitre que vous avez été frondeur. Vous avez contesté l'autorité militaire.
Ah oui, 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 absolument. Ben, c'est-à-dire que quand on, pour rentrer à Santé Laval, j'ai travaillé. Autant quand j'étais à Bayonne, je me suis amusé, j'ai fait ce qu'il fallait, mais beaucoup de trompettes et beaucoup de musique. Mais là, à Rochefort, j'ai eu Santé Laval. Donc, j'ai signé un contrat. On signe un contrat un an après l'arrivée pour être navalé, pour être dans la marine. Voilà. Certains avaient signé un contrat pour être dans l'outre-mer. Et d'ailleurs, ça se traduisait à la fin des études, qui étaient des études civiles. On suivait les études civiles. Ceux qui avaient pris l'outre-mer partaient à Marseille faire ce qu'on appelle une école d'application au Faro. Et ceux qui avaient pris la marine allaient à Toulon. Et pendant cette école dite d'application, qui se passait en mai 68, n'est-ce pas ? Pendant la période de mai 68, ça a duré 6 mois, nous avons appris que le directeur général du service de santé des armées de l'époque avait fusionné les services de santé des armées. Fusionné. Il n'y avait plus d'école de marine à Bordeaux, il n'y avait plus des centaures à Lyon, c'était une seule école. Bien évidemment, comme on sait que depuis toujours, il y avait une rivalité entre Bordeaux et Lyon, on voyait là-dedans la disparition, dès 1968, la disparition de Bordeaux et la fusion à Lyon. Donc, on a dit, écoutez, c'est inadmissible, rupture de contrat, on ne passera pas le concours de sortie à l'école d'application. Et j'avais été un frondeur. Oui, j'étais un frondeur pour les marins. Moi, j'étais pharmacien à l'époque. J'avais fait mes études de pharmacie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Jacques Valade, que je salue. Tuta, je l'avais connu bien avant, elle était bayonnaise. Je connaissais très bien son frère, Jean-Pierre, avec qui j'étais ami. Mais Jacques Valade, je l'avais connu comme professeur de chimie, puisque en pharmacie, à Santé Laval, il fallait faire une double formation, pharmacien et chimiste, ou chimie physique. Et donc, j'ai connu Jacques Valade, je ne l'avais jamais vu, sauf lors du premier oral, que j'ai passé avec lui, et il m'a permis de le reconnaître en signalant que c'était moi que j'avais tiré. C'était lui que j'avais tiré, il doit s'en souvenir. Mais, j'ai été fondeur. On a débauché les gens de Marseille, en disant « c'est inadmissible, vous qui êtes passionné par l'outre-mer, vous n'aurez plus vos affectations outre-mer, vous irez dans des hôpitaux de campagne, etc. » Bon, j'ai rien contre, mais enfin... Et même les gens de Lyon, qui étaient au Val-de-Grâce, qui passaient à l'école d'application au Val-de-Grâce, avaient accepté de dire non, effectivement, il y a rupture de contrat, donc on est tout à fait d'accord pour ne pas passer le concours. Et je me suis retrouvé avec les amis de Marseille et du Val-de-Grâce à Paris, en permis 68, en fausse permission, voulant voir le directeur central du service de santé des armées, qui avait refusé de nous voir en disant « Vous avez un directeur de l'école, ça passera par lui. » Mesmer était ministre des armées. on les a incités fortement à passer le concours. Voilà. Mais nos aînés, les médecins généraux qui étaient à la tête de tout ça, se rendaient compte qu'il y avait péril dans la demeure quant à Santé Laval et à son devenir. Et quelque part, tout s'est arrangé. On nous avait promis la prison, certains, le fort à Toulon qui avait accueilli les bagnards à l'époque. Enfin, tout ça était très sympathique. Et puis, ça a brutalement disparu. On n'a plus du tout parlé. Et je me suis retrouvé affecté à Bordeaux pour finir mon internat, alors que je me suis dit, c'est terminé. Je ne sais pas où j'irai, mais peu importe. Et donc, voilà. Voilà la période de frondeur qui était justifiée.
Alors, on va passer maintenant à une autre phase de votre vie, c'est la vie professionnelle. Hein. Vous consacrez un long chapitre à la médecine nucléaire et au rôle qu'a joué dans cette révélation un grand pont qui s'appelle Paul Blanquet.
Oui.
Alors, quelle était votre participation personnelle dans l'évolution de cette spécialité-là ?
Mais écoutez, la médecine nucléaire est une des spécialités de l'imagerie médicale, comme la radiologie. Et comme j'avais passé l'internat de pharmacie pendant mes études, que j'avais commencé ma médecine, mais j'étais donc interne en pharmacie, en fait j'étais interne en biologie. Et j'ai fait mes premiers stages à l'hôpital des enfants, et puis après à l'hôpital Saint-André, auprès du professeur Blanquet, qui était dans une jeune spécialité médicale. Il rentrait lui-même de Berkeley, où il avait travaillé avec Lorentz, qui avait eu le prix Nobel de physique sur le cyclotron. Et une personnalité enthousiasmante, passionnante. Et donc, J'ai fini tout mon internat chez lui. J'ai orienté ma licence de physique et chimie vers les activités du nucléaire, la physique nucléaire et radiochimie. Et voilà, j'avais cette double formation. Et c'était une spécialité toute nouvelle, toute récente. Parce que cela résultait de la découverte de la radioactivité artificielle en 1937. C'était pas si vieux. Et c'est une spécialité qui a beaucoup bénéficié du progrès des sciences et des techniques, de l'électronique, de l'informatique. Et les années 60, qui étaient l'année de ces études, m'ont permis de participer à cela. En plus, Paul Blanquet était un homme très dynamique. Nous avons eu les premiers équipements qui arrivaient donc en France, qui venaient des États-Unis, pour faire une imagerie dynamique, à découverte de ce que pouvait apporter l'informatique pour le traitement des images. Donc tout ça, alors, avec Blanquet, on s'est beaucoup déplacé, on a beaucoup voyagé, et j'ai beaucoup œuvré avec lui. Et puis, progressivement, eh bien, il m'a laissé évoluer, et j'ai eu la chance, genre là, c'est vraiment une chance inouïe, mais la vie est faite d'opportunités, de hasard, de passer l'agrégation très jeune. J'ai passé l'agrégation dans une spécialité qui est la biophysique, qui était une spécialité qui est médicale, mais qui était ouverte aux pharmaciens. Il y avait quelques spécialités de biologie qui, quand on avait les titres et le background requis, pouvaient accueillir des médecins et des pharmaciens, comme c'est le cas aujourd'hui pour la biologie, d'ailleurs biologie médicale. Et donc j'étais le seul pharmacien, Blanquet a dit non, je veux que tu passes la GREG, tu es prêt, je vais te faire travailler. Et donc j'ai passé la GREG en 1970, je suis né en 1943, et donc très jeune, c'est assez rare, mais ça m'a donné la possibilité vraiment de m'investir et de m'impliquer dans l'essor de cette spécialité. Qui était toute nouvelle. C'était la période où le scanner n'existait pas, l'IRM n'existait pas, l'échographie était balbutiante, et la médecine nucléaire, alors, était un problème. On croyait que nous étions la médecine de la centrale nucléaire du Blayais, qui est en train de se préparer, quoi. Donc, voilà. Mais alors là, j'ai beaucoup œuvré au niveau national et international, et j'ai retrouvé Jacques Vallade quand il était ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, lors du premier congrès sur la recherche en imagerie médicale, que nous avions monté avec Jean Tavernier. J'ai découvert Jean Tavernier à l'époque à Olévêque, où il était responsable de la radiologie. J'ai été responsable de la médecine nucléaire. Et c'est une personnalité, à l'image de Paul Blanquet, Jean Tavernier m'a... c'est un grand frère pour moi. Je l'ai beaucoup accompagné. Nous avons été ensemble. Et on a fait ensemble ce que ne pouvaient faire au niveau national les deux spécialités qui se haïssaient. Et c'est un peu comme la politique en ce moment. Ils se divisaient plutôt que de s'unir. Mais nous, à Bordeaux, on s'unissait. Et on a, avec Jean Tavernier, mis en place des dispositifs d'exploration fonctionnelle, d'organisation. On était assez pionniers, on a fait des livres à ce sujet-là. Et le premier congrès de recherche en imagerie médicale s'est passé donc à Paris. Et il y avait Jacques Vallade qui était donc a ouvert, qui était ministre donc de la recherche et enseignement supérieur, qui a ouvert le congrès. C'était l'époque où la spécialité, il y avait une réforme des spécialités médicales qui se préparait. La médecine nucléaire n'était pas encore une spécialité. Donc j'avais travaillé avec son cabinet au ministère l'opportunité de faire de la médecine nucléaire pas une sous-radiologie, mais une spécialité à part entière, parce que pour s'unir, il vaut mieux être identique qu'en dessous l'un de l'autre, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a annoncé à l'ouverture que, dans le cadre de la réélection, la spécialité, la médecine nucléaire, serait une spécialité à part entière. Et Michel Barzac était ministre de la Santé à l'époque. C'est elle qui a clôturé le congrès. Et avec son cabinet, j'avais œuvré pour que la médecine nucléaire s'ouvre au privé. Jusque-là, était réservée parce qu'il y avait l'usage des produits radioactifs en sources non scellées, le risque de contamination. Elle était réservée uniquement aux hôpitaux publics. Donc, ce qui était anormal, si une spécialité est utile, elle doit être autant dans le public que dans le privé. Il suffit d'avoir des cohérences. Donc, c'était un faux prétexte. Et c'est ainsi que, grâce à Jean Tavernier, j'ai pu, avec lui, avec Jacques Vallade et avec Michel Barzac, œuvrer pour l'évolution de la médecine nucléaire.
Parce que vous parlez de Jean Tavernier, il lui a aussi succédé en tant que président de l'université de Bordeaux 2. Voilà, de Bordeaux 2.
Hein. Je vous disais, j'ai beaucoup suivi Jean Tavernier, si ce n'est que je n'ai jamais été président du conseil régional. Ça. Mais voilà. Et j'ai effectivement beaucoup suivi Jean Tavernier. Dans les années 70, alors c'était... il y avait une réforme des universités avec donc une loi qui redéfinissait l'université pluridisciplinaire. Et c'était Henri Bricot qui a organisé l'université de Bordeaux 2. Il y avait 3 universités à l'époque sur Bordeaux. Et celui qui a succédé à Henri Bricot, c'est Jacques Latrille, que Montois. Et Jacques Latrille, à l'époque, était très tonique, c'était un bactériologiste, il était très tonique, il avait déjà programmé toute l'évolution pendant 15 ans de l'université. Donc, Tavernier devait être le prochain président de l'université, je devais succéder à Tavernier. Enfin, c'était pas bête, parce que c'était des mandats de 5 ans non renouvelables. Là, il n'y avait pas de... Voilà, 5 ans, terminé. En 5 ans, on peut débarrer des choses, mais c'est difficile de mener à bien un projet ambitieux. Et donc, il fallait qu'il y ait une continuité, il fallait qu'il y ait une cohérence. J'ai effectivement, après avoir été doyen de la faculté de médecine, succédé à Jean Tavernier, où là, je me suis passionné. Le mandat de président d'université est un mandat extraordinaire. Et Bernard Bégaud, qui est dans la salle, peut en attester. C'est un très beau mandat, où on a des logiques d'investissement, du quotidien, des recrutements, des stratégies pour aller chercher les meilleurs là où ils sont, les politiques de recherche, la mise en place d'enseignements nouveaux. Enfin, c'est très complet, très, très intéressant. Mais on s'ouvre aussi au milieu économique, on s'ouvre aussi aux autres collectivités, on s'ouvre aussi à la région. Et donc, lorsque j'étais président de l'université, on avait créé l'Office de valorisation industrielle pour valoriser le fruit de la recherche. Voilà. Et en relation avec les industriels.
En fait, ça vous a presque préparé à une carrière politique, puisque ensuite, on aborde un long chapitre dans ce livre où on vous voit au conseil régional, hein, vous rentrez au conseil régional et au conseil municipal de Bordeaux, pratiquement simultanément, hein, au titre de la société civile. À ce moment-là, vous n'étiez pas encarté.
Hein. Oui, j'étais pas encarté. Et Jacques Balade s'en souvient bien. Lorsque il y a eu les élections régionales en 1992, moi je finissais mon mandat de président d'université en décembre 1992. Donc j'ai été très heureux de ne pas être élu. J'étais sur la liste, mais j'étais le premier collé. Ce qui m'avait fait un choc quand même. J'étais le 13e. Voilà un chiffre qui ne porte pas chance. J'étais le 13e. La liste est terminée au 12e. Mais je savais que dans cette liste, il y avait un certain nombre, car là aussi, en politique, tout était programmé. Je savais qu'il y avait un certain nombre qui devait passer les législatives en 1993. Et donc, un certain nombre seraient élus, laisseraient leur place. Et je pourrais, de ce fait, étant le premier battu, intégrer en ce qui s'est passé, d'ailleurs, en 1993, le Conseil régional. Et là, j'étais en société, je faisais partie de la société civile, avec Jacques Nègre. Nous étions deux. C'était pas très fréquent à l'époque et pas très bien vu. Mais Jacques Valade, donc qui conduisait la liste après donc des problèmes de santé de Jean Tavernier, qui avait été le président du conseil régional sortant, il a souhaité donc que je sois sur cette liste-là. Mais pour que je sois 13e, il avait dû cravacher. Donc, 2 ans après, 1 an après, il m'a dit « Bon, maintenant, il faut s'engager quand même. » Et on suit les recommandations. Donc, je me suis inscrit au RPR. Ce qui ne me gênait pas du tout, d'ailleurs, hein, je le dis très sincèrement. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'aurais peut-être été centriste, mais il n'y avait pas de personnalité qui me plaisait. Donc, j'ai été RPR. Et ce qui fait que lorsqu'il y a eu les municipales en 95, effectivement, là, c'était en tant que RPR que j'étais sur la liste conduite par Alain Juppé.
Alors, vous racontez dans ce chapitre-là, je parle quand vous êtes au Conseil régional, hein, à ce moment-là, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale.
Oui.
Et il vous a confié une mission périlleuse.
Oh oui.
Racontez un peu cette mission périlleuse.
Alors, Alain Juppé, qui était Premier ministre, revient un jour à Paris. Il me dit, tu as été appelé par Bayrou. Non, ben, il va t'appeler parce qu'il y a un peu le feu dans les universités. Ça, je savais. Il y a un peu le feu dans les universités. Et donc, l'idée était de voir des anciens présidents d'université qui s'étaient pas trop mal débrouillés dans leurs universités pour les amener à éteindre le feu là où il y avait des problèmes. Et donc, François Bayrou m'a effectivement appelé, plus exactement son directeur de cabinet, pas le ministre. Donc, son directeur de cabinet m'a appelé pour savoir si j'acceptais de faire cette mission à Montpellier.
Vous avez rencontré Georges Frêche.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc, c'était au moment de Noël. Je m'en souviendrai. Donc, j'arrive. Le recteur était remarquable. Blanchet, il a fini d'ailleurs recteur de l'Académie de Paris. C'est un type tout à fait remarquable. Et il y avait le feu. Il y avait le feu parce que le président de l'université de Montpellier 1 était un fou. Était un fou, Loubatière, dont un ancêtre avait été très brillant, pour ceux qui sont dans la pharmacie, n'est-ce pas, très brillant. Mais lui, il n'avait pas les chromosomes correspondants. Et donc, il se déplaçait toujours avec une blette de baseball. Pour agiter comme ça devant les étudiants. Et comme ça ne vous a pas échappé, Montpellier 1 était à la fois la santé et le droit. Et Frêche était professeur de droit, histoire du droit. Et Loubatière, qui n'avait pas tout à fait les mêmes opinions que Frêche, lui avait dit, écoutez, j'aimerais bien que vous inspectiez, que vous fassiez passer la commission de sécurité en tant que maire, dans les locaux d'université. Ouh, avec grand plaisir. Tout était fermé. Il a tout fermé. C'est pour se dire. Donc, Frêche a fermé parce que c'était insalubre, parce que les travaux n'avaient pas été faits, parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait surtout des projets que Frêche avait et qui étaient contrariés. La construction d'une grande bibliothèque universitaire et mixte et publique. Donc, le président ne le voulait pas, bien sûr, Frêche le voulait. Donc voilà, tout est fermé. Donc j'avais à rouvrir l'université. Voilà, ça a été très sympathique. Quand je téléphonais, j'entendais toujours un déclic. Quand je téléphonais au président de Loubatière de Bordeaux, il m'enregistrait. Je trouvais des procédures très désagréables. Et quant à Frêche, la première fois que je l'ai vu, il était entouré de son aéropage. Il m'avait parlé de son grand projet de Montpellier, le tramway qui allait se construire, le quorum, enfin. Superbe, quoi. Bon, j'ai dit, mais je ne viens pas pour ça. Je ne veux pas. Oui, oui, mais enfin, il faut que vous compreniez ça pour comprendre le reste. Ah, bon, d'accord. Donc, voilà, au revoir, monsieur. Moi, je ne voulais pas quand même rester trop longtemps dans cette ville. Et donc, la deuxième fois, c'était un peu mieux. On n'était que 4. Et la troisième fois, on était 3. Il m'a dit, bon, vous êtes prêt à négocier ? Ah, j'ai dit, écoutez, ça fait 2 mois que je suis là, je ne souhaite que ça. Eh bien, on va négocier. Veuillez sortir, il dit. Et je suis resté avec lui. Ça a duré 10 minutes, c'était réglé. Voilà. Autrement dit, il s'est amusé pendant 2 mois. Il a emmerdé, excusez-moi d'expression, mais c'est vrai, toute l'université à laquelle il appartenait. Et le recteur actuel de l'Académie de Bordeaux est un ancien doyen que j'ai connu à Montpellier, parce qu'il était doyen lorsque j'ai fait cette mission. Voilà, donc c'était intéressant, curieux, et voilà. Mais vous savez, c'était curieux quand vous avez d'un côté blanc à la région, Frêche à la ville, c'était un peu compliqué, vous voyez. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, mais j'ai bien appris, ça m'a beaucoup été utile.
Vous avez tellement bien sorti.
J'ai bien appris.
Vous avez tellement bien sorti que Bayrou vous a proposé à ce moment-là d'être recteur.
Donc, je reviens pour remettre mon rapport à François Bayrou, avec le directeur d'enseignement supérieur qui m'accompagnait. Et il m'a dit, bon, on va boire le champagne. Je lui ai dit, très bien, c'est le champagne. Et je remets le rapport, il m'a dit, je l'ai lu, il m'intéresse beaucoup, très bien, bravo. Demain, vous êtes nommé recteur à Montpellier. Ah, je lui dis, attendez, je ne veux pas être... Mais ça ne se refuse pas. Ouais, moi, je vous refuse. Et alors, je lui ai dit, ça a été... Vous avez téléphoné à Alain Juppé, il est d'accord? Ah oui, non, écoutez, voilà. Donc, j'ai failli être recteur à Montpellier, mais j'étais très bien à Bordeaux. Et donc, voilà.
D'accord.
Bon, alors après, on va passer à un autre chapitre important aussi. C'est vos deux mandats suivants à la mairie, à la culture. Hein. Vous avez succédé à Martine Moulin-Boudard. Bon, vous n'étiez pas vraiment prédisposé à ça, a priori, hein, parce que vous souhaitiez plutôt l'économie, des choses comme ça. Et pourtant, Alain Juppé vous a proposé cette délégation. Bon, alors, pourquoi, à votre avis, a-t-il proposé ce
sujet ? Il faut lui demander. mais je vais essayer de répondre. Il me contrediras si ce n'est pas ça. Mais il savait que j'étais musicien. Personne ne l'ignorait, à Bordeaux comme ailleurs. Et parce que pendant tout le temps, rapidement, mais vous verrez ça dans le livre, donc j'avais eu l'occasion de jouer à Shanghai avec Jacques Vallade, qui s'en souvient. J'ai fait danser Tita. Et donc des hauts lieux, enfin voilà. Et donc tout ça était parfait. Et Alain Juppé m'avait demandé. Alors pendant le premier mandat, j'avais en charge des relations avec l'enseignement supérieur et la recherche, les étudiants dans la ville, donc tout ce qui est logement, déplacement, animation, loisirs. Et l'année 2000, Alain Juppé m'avait demandé de préparer avec la direction générale des affaires culturelles. La programmation du passage à l'an 2000. Ce que j'ai fait avec Michel Pierre, qui était directeur de la DGAC, ce qu'on appelle la DGAC, que j'ai fait avec grand plaisir, et on a eu une belle programmation avec Ousmane Sow, enfin, belles expositions, avec Présumé Innocent, cette exposition qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a altéré l'ardeur de Henri-Claude Cousseau, ce qui a été assez, assez plat, mais c'est comme ça. Mais donc, ça a été. Il y a eu à l'opéra, il y a eu l'hommage à Hergé avec le concert de la Castafiore. Enfin, et ça, c'était en 2000. Et les élections étaient en 2001. Alors, quand Alain Juppé m'a demandé de venir le voir, et en me posant la question qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je lui ai dit naïvement, ben, l'économie en lien avec l'université, la recherche, la valorisation, l'innovation, ça a du sens, quoi. Et il m'a dit, mais ça, c'est pas possible. Ben, je comprenais très bien, il y avait une personne qui suivait l'économie. Alors, il me dit, j'avais préparé, certainement. Il me dit, mais tu prends la culture. Oh. Et je lui avais dit, mais il y a quand même d'autres personnes. Moi, j'ai cru comprendre. D'abord, il y a Martine Moulin-Boudard, qui a fait le premier mandat. Et puis, j'avais entendu d'autres personnes dont je tirais le nom, qui auraient été intéressées par cela. Moi, je ne m'étais jamais prononcé là-dessus. Il m'a dit, écoute, tu as 48 heures pour réfléchir. Mais le budget est important. Le budget est important. Ah, ça, c'est évidemment, c'est intéressant. Et donc, au bout de 48 heures, j'ai accepté, parce que c'était l'occasion aussi pour moi de revenir dans des activités culturelles et artistiques. Et je ne l'ai pas regretté. J'ai fait deux mandats. Bon, le premier mandat était... Le deuxième mandat, j'ai souhaité le poursuivre. Alain Juppé l'a accepté. Et voilà, c'était... Alors, c'était passionnant, 12 ans, mais très difficile. Très difficile, pourquoi ? Parce que lorsqu'Alain Juppé est arrivé en 1995, il y avait dans le mental des Bordelais un certain nombre d'images liées au passé culturel de la ville de Bordeaux, qui avait un budget considérable, mais au détriment de bien d'autres choses. Moi, je connaissais Bordeaux comme étudiant, je connaissais Bordeaux comme enseignant, Bordeaux noir, sale. Je connaissais Bordeaux par le point de vue de l'économie, des entreprises, hein. Puisqu'il y avait quelques mouvements sur le Grand Bordeaux, sur l'association Convergence avec le MEDEF, et je représentais chaque fois l'université. Donc, je connaissais bien. Et donc, à partir de là, il y a eu des choix. Mais il n'y avait pas d'élu à la culture, si ce n'est le maire Jacques Chaban-Delmas, qui était... Voilà, en prise directe, avec les aspects culturels. Et il y a eu Sigma, dans les années 60. Et puis, il y a eu le CAPC, avec Froment. Et puis, il y a eu l'Opéra, avec Alain Lombard. tout ça a été très beau. Moi, quand Alain Lombard a été nommé à Bordeaux, en tout cas a été retenu par Jacques Chaban-Delmas, des amis de Strasbourg m'ont téléphoné. On me dit, Alain Lombard vient à Bordeaux. Oh, vous avez une chance inouïe. Ah, je dis, tant mieux. Mais on n'est pas mécontent de le voir partir. Ah, je dis, ça, c'est quand même paradoxal. Explique-moi. Non, tu verras toi-même. Et donc, effectivement, assez dispendieux, quoi. Voyez. Et avec, voilà, c'était un autre siècle, d'autres habitudes. Et le budget, c'était le budget. C'est-à-dire qu'en 95, mais le maire de Bordeaux me parlait nettement mieux que moi, l'investissement, il n'était pas brillant. Et une ville qui n'investit pas est une ville qui régresse. Et donc, il a fallu rétablir un budget plus cohérent. Donc, automatiquement, ça s'est fait là où il y avait des poches récupérables. Et donc, exit Froment, exit Alain Lombard, et donc, à l'Opéra, c'est donc Thierry Fouquet qui a été appelé par Alain Juppé et qui a fait, avait moins, mais aussi bien. D'ailleurs, je relisais des rapports des années 82 000, où il y avait une étude sur la fréquentation, la programmation. Voilà, il y avait une vraie analyse qui montrait bien quand même qu'on ne pouvait pas être à la fois exécutant, musicien et responsable d'une maison comme celle de l'Opéra. Voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'automatiquement, un artiste demandait à un artiste de s'aborder. Ça, j'en ai jamais vu. Ça, il y a des saints partout. Mais enfin, moi, j'en ai pas vu. Donc, voilà. Mais ça, c'est donc, conclusion, il y avait, pour les Bordelais, le maire n'aime pas la culture, rien ne se fait à Bordeaux, il n'y a pas de politique culturelle. Voilà. C'est dans un contexte, dans ce contexte-là que j'ai assumé, avec pour mission, non pas de rétablir Sigma, parce que Sigma, c'était impossible. Il avait vécu, d'abord, c'était 3 décennies avant. Et 3 décennies, les choses avaient changé. Ce qui était exceptionnel dans les années 60, mais vraiment exceptionnel, parce que tout le monde parlait de Sigma, y compris ceux qui n'étaient pas nés. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient dans le Sigma, du temps de Sigma, et vous étiez le Sigma. Moi, j'ai vécu, j'étais étudiant, mais vous... Ah oui, mais j'en ai tellement entendu parler. Oui, d'accord, mais enfin... Et d'autres qui en avaient parlé aussi, à l'époque, ils n'étaient pas très pro-Sigma, hein. Ça dérangeait quand même beaucoup. Alors, il y avait quelques hommes, on ne parlait pas des bobos à l'époque, mais enfin, c'était tout comme. Il y en avait certains qui voyaient là une... Bon, n'empêche que c'était une très belle opération en termes de lisibilité, de stratégie de communication et, quelque part, de découverte d'artistes. Ça, il y a des artistes de talent qui ont fait une carrière internationale, qui ont fait des programmations de Sigma qu'on ne reverra plus. Mais Sigma, c'était terminé. D'ailleurs, c'était terminé avant 1995. C'était terminé avant 1995. Le Mai musical était terminé avant 1995. C'est même Jacques Chaban-Delmas qui a arrêté le Mai musical parce que ça lui coûtait très cher et qu'il préférait préserver le CAPC et l'Opéra. Donc, il a fallu que je fasse de la godille pour, dans cette période-là. Et on a créé Novart. À ce moment-là, avait l'appui complet du TNBA, du Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, et de Gérard Lyon, donc lui-même, qui avait fait une proposition, dont le but était, c'était pas génial au sens du national et de l'international, mais ça avait une logique locale de fédérer les publics et les lieux culturels. Voilà, amener les gens à découvrir autre chose que leur propre lieu. Dans lesquels ils allaient depuis toujours, qui avaient même leur place numérotée transmissible de père en fils, c'était le cas de l'Opéra, et donc ça a permis de débloquer, de décongestionner, de travailler en relation étroite avec le milieu culturel, de croiser des artistes invités qui étaient de renom et qui avaient marqué leur discipline avec des jeunes pousses donc en développement. Il y avait, avec le ministère de la Culture et des Relations internationales, un programme qui permettait des séjours, des accueils et des séjours d'artistes à l'étranger. Donc, ça s'est bien passé. Alors, Novart était annuel. Après chaque Novart, c'était « Ah, mais Novart, il n'y a pas de thème, il n'y a pas... » Je ne sais pas, les thèmes, c'est un faux problème, c'est un faux débat. les thèmes, c'est dans la création, dans l'innovation, dans la politique d'éveil, sur les jeunes publics, etc. Mais là, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des thèmes très pointus, comme il en existe dans un certain nombre de disciplines au niveau national et international, mais dans la pluridisciplinarité qui est tout à fait d'actualité des arts de la scène et des arts visuels, Sima Novat remplissait parfaitement cette logique-là. Il y avait un public, il y avait une habitude, c'était très correct. Bon, voilà. Mais c'est vrai, par contre, qu'une manifestation, elle s'épuise très vite. Parce que les mentalités évoluent très vite, parce que les habitudes des uns et des autres évoluent très vite, parce que les technologies de communication évoluent très vite. Donc, il faut changer régulièrement. Et donc, c'est très bien que Novart ait disparu pour donner autre chose. Ça ne pouvait pas durer. Il ne faut pas que ça dure. Sigma a duré trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Voilà. Alors, après, il y a eu la belle aventure de Capital Européenne de la Culture.
D'accord.
Ça a été une belle aventure.
Vous considérez que ce n'était pas un échec pour vous
Ah non. Ça, ce n'est pas du tout. C'est au contraire. C'est un succès. Je vais vous dire pourquoi d'abord. On s'y est pris très tard. Hein, très tard. Mais parce que le maire comme moi n'avait pas imaginé qu'on puisse... voilà, il y avait une perception de ce que... Il faut quand même savoir que les capitales européennes de la culture ont été surtout marquées depuis 2004 avec Lille. Parce que jusqu'avant, personne n'entendait parler des capitales européennes de la culture. Et il y en a eu pourtant à Porto, enfin, toutes les villes en Europe. Mais en France, Lille a été un très grand succès. Très, très grand succès. Donc, avec beaucoup de visiteurs, ça a relancé Lille. Parce que le but des capitales européennes de la culture, c'est de donner à travers la culture l'opportunité pour des villes qui en ont besoin, soit sur le plan économique, soit sur le plan social, qui en ont besoin, la possibilité d'avoir un éclairage et d'avoir une lisibilité pendant une année nationale et internationale. Et ça, c'est un succès. On était 6 candidats. On était 12 candidats au départ. Donc, ça s'était organisé. Et d'autre part, c'était très organisé. Du temps à Lille, c'était le ministère qui disait « Bon, mais on choisit Lille, cette année. Lille en a besoin, on choisit. » Et c'était directement une négociation entre le ministère de la Culture, le gouvernement français, et Bruxelles. À partir de l'année 2013... Et pour y arriver, ça a été très codifié, pour la première fois, avec un jury, la composition du jury, avec les épreuves en deux temps, une première sélection un an après, une deuxième sélection encore un an après. On a passé le premier cap. Le dossier, c'était Richard Cocognier, qui a été désigné par Alain Juppé, par Alain Rousset par Feltès. Donc c'est bien. C'est une détermination commune des trois collectivités. Cocognier a préparé un très beau dossier. Il y avait un comité de suivi qui était présidé par le maire de Bordeaux. Et donc j'étais à ses côtés. Et ça a été une très belle préparation. Un très beau dossier. Et on se rappellera toujours de la venue le 1er septembre du jury, de quelques membres du jury, à Bordeaux, 1er septembre, rentrée de vacances, rentrée de classe du primaire. Et un monde fou, place Péberlin, la cour de la mairie, c'était donc en 2008, 2007 et 2008. Le jury s'est rendu compte que les habitants en voulaient. C'était tous ensemble. On est tous candidats. Voilà. Et ça avait très bien marché. Il y avait un effet d'entraînement extraordinaire. Et c'est là où je dis que, le maire l'a dit à diverses reprises, il y a eu un effet d'entraînement qui a été très bénéfique pour Bordeaux et la vie culturelle. Très, très bénéfique. Alors après, c'est un concours. Hein. Il restait civil. Il restait à côté de Bordeaux. Il y avait Marseille. Il y avait Toulouse, Saint-Étienne, mais qui avait été éliminé. Non, c'est ça. Il restait trois villes. Il restait trois villes. Saint-Étienne avait été éliminé. Donc, à la suite de tout, il restait trois villes.
On a été retenu donc lors du premier passage. Moi, je me rappelle toujours de la présentation à Paris du jury d'Alain Juppé accompagné de Rousset et de Feltès. C'était vrai sérieux, hein, c'était un vrai. Il y avait de Cocognier, il était, il y avait deux ou trois artistes qui accompagnaient une présentation à la montre, comme un concours. Hein. Vous avez 3 minutes ou 10 minutes pour parler, pas plus, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Alors, le jury était présidé par un lord, qui était Liverpool, qui avait obtenu. C'était maire de Liverpool, qui avait obtenu la capitale européenne de la culture la fois d'avant. Et, vous savez, dans le football, il y a Marseille, il y a Bordeaux, mais il y a Marseille aussi. Et les liens entre Liverpool et Marseille étaient assez comparables. Il y a eu les Beatles, bien sûr, à Liverpool. Mais Marseille avait besoin. Il y avait de vrais problèmes sociaux, économiques à Marseille. Et donc, voilà, Marseille a été retenue. On espérait jusqu'au dernier moment. On n'est pas arrivé second. Nous, c'était Bordeaux, ville ouverte. Et Marseille, c'était Bordeaux, la ville. Voilà. Mais Marseille, c'était la Méditerranée. Bon, c'est Méditerranée. Et entre-temps, le président de la République, dont je tairai le nom, avait pris la décision de construire un musée national, superbe d'ailleurs, à Marseille. Voilà. Qui collait parfaitement avec la thématique, parce que c'est le MUSEM, qui collait avec la thématique de méditerranéenne. Et donc, tous les ingrédients y étaient pour Marseille. Et donc, non, on n'a pas perdu. D'accord. On n'a pas perdu parce que tout ce qui était prévu dans le programme de 2013 a été réalisé par la ville de Bordeaux et les autres collectivités, Darwin, l'auditorium, enfin, tout a été réalisé. Et voilà.
Ben merci Dominique Cassou.